Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RCJ, nous sommes le jeudi 26 mars, il est 8h.
La matinale info, Didier Caramalo.
Au programme de cette matinale, le décryptage de l'actualité au Moyen-Orient avec Emmanuel Lada, notre journaliste reviendra sur le potentiel arsenal des gardiens de la révolution islamique. Dans cette matinale aussi, l'avocate et cofondatrice de l'association Femmes Azadi, Chaparak Saleh, viendra partager son témoignage sur le conflit qui déchire le Moyen-Orient depuis 27 jours. En tant que franco-iranienne, son témoignage dans cette matinale info nous aidera, vous le verrez, à comprendre mieux encore la situation de l'Iran et surtout la situation du peuple iranien. Mais pour le moment, on ouvre cette matinale par le journal.
Le journal.
La Russie s'apprêterait à livrer des drones à l'Iran selon des sources occidentales citées par le Financial Times. Ces livraisons incluraient également une aide humanitaire, mais l'envoi d'équipements militaires seuls constituerait déjà une évolution notable dans la coopération. Moscou aurait déjà fourni un appui en renseignement à Téhéran. De son côté, le Kremlin dément toute implication directe. Des tirs de missiles en provenance de l'Iran ont déclenché cette nuit des sirènes à Jérusalem notamment et dans une large partie d'Israël. Des débris sont tombés dans la capitale et deux habitations ont été endommagées en Judée-Samarie sans faire de victimes. Six personnes ont été légèrement blessées et prises en charge par le Magen David Adom. Parallèlement, Tsahal a mené un exercice militaire d'ampleur pour tester la préparation de ses troupes déployées à Gaza. Le détroit d'Ormuz est fermé uniquement aux ennemis. Ce sont des déclarations de l'Iran, du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi plus précisément, qui ajoute qu'il n'y a aucune raison de laisser passer les navires de ses ennemis et de leurs alliés. L'armée iranienne a déjà assuré un passage sécurisé aux navires des pays ennemis, a-t-il souligné. L'Iran qui n'a pas l'intention de négocier mais de continuer à résister selon le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi. Il fait ici allusion au pourparlers évoqué par le président américain Donald Trump depuis deux jours mais nié par Téhéran. Parler maintenant de négociation revient à admettre une défaite de la part des États-Unis, a également déclaré le chef de la diplomatie iranienne. La République islamique veut mettre fin à la guerre selon ses propres conditions, de telle sorte que cela ne se reproduira plus jamais, a-t-il enfin ajouté. De leur côté, les États-Unis affirment être en avance sur leurs objectifs dans leur campagne militaire contre l'Iran. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a évoqué, je cite, « des résultats significatifs ». Washington maintient toutefois une double approche, combinant pression militaire et ouverture diplomatique. Donald Trump se dit prêt à poursuivre les discussions tout en avertissant que les frappes pourraient être intensifiées si Téhéran refuse de coopérer ou de renoncer à ses ambitions nucléaires. Et ce chiffre maintenant, près de 300 soldats américains ont été blessés depuis le début de la guerre selon l'armée américaine, dont 10 grièvement. Parmi tous les soldats blessés, 255 sont retournés au service. Pour rappel, depuis le début des frappes contre l'Iran le 28 février dernier, 13 soldats américains sont morts, 7 dans le Golfe et 6 en Irak. La Turquie, elle, mène une offensive diplomatique pour contenir les tensions entre l'Iran et les monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Malgré des frappes iraniennes ayant touché des infrastructures stratégiques, ces États restent prudents et évitent pour l'instant une confrontation directe. Ankara appelle à la retenue pour éviter une escalade régionale majeure. Enfin, nous l'avons appris hier soir, Loana Petrucciani, première gagnante de Love Story, est morte à 48 ans à son domicile de Nice. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. Figure emblématique et pionnière de la télé-réalité, elle a marqué durablement le paysage audiovisuel français. De nombreuses personnalités comme Benjamin Castaldi, Alexia Laroche-Joubert ou encore Enora Malagré lui ont rendu hommage. L'écrivain Nicolas Mathieu, récompensé du prix Goncourt en 2018, a comparé la mort de la star à l'assassinat de Gaston Calmette, directeur du Figaro, par l'épouse du ministre Joseph Caillaux, contre lequel le quotidien avait lancé une violente campagne de presse. C'est à ce drame ancien que sa disparition m'a fait penser. Une histoire de médias, de déchaînement et de mort, a-t-il écrit sur le réseau social Instagram. Vous écoutez RCJ, il est 8h04. Dans quelques instants, on fait le tour de l'actualité en Israël avec Emmanuel Hadar. Restez avec nous.
RCJ. En Israël, des millions d'Israéliens vivent aujourd'hui au rythme des sirènes et des abris. Dans l'urgence, le FSJU agit aux côtés de l'ONG israélienne Latet, acteur majeur de l'aide humanitaire dans le pays. Il faut renforcer la distribution de colis alimentaires et soutenir les personnes les plus vulnérables. Latet et le FSJU peuvent le faire grâce à une logistique déployée dans les abris en coordination avec les autorités civiles. Pour poursuivre et intensifier ces actions, nous avons besoin de vous. Soutenez le fonds d'urgence FSJU Latet. Faites un don dès maintenant sur israel.fsju.org.
Bain et déco, parce que votre intérieur mérite l'excellence. Salle de bain d'exception, cuisine et dressing sur mesure, de la conception en passant par la rénovation complète de votre appartement. Nous sélectionnons et représentons les plus grandes marques haut de gamme et nos artisans qualifiés subliment chaque détail avec exigence, précision et élégance. Découvrez nos showrooms spacieux à Bastille, Saint-Germain et Boulogne et notre toute nouvelle adresse d'exception de 450 m² au 9 avenue Victor Hugo, Paris 16e. Prenez rendez-vous sur bainetdeco.fr. Bain et déco, l'art de sublimer votre intérieur.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
Merci d'avoir choisi RCJ, il est 8h06. Dû aux menaces qui pèsent en ce moment même sur Israël, malheureusement notre correspondante n'est pas disponible, alors retrouvons tout de suite notre invitée. Nous sommes maintenant avec l'avocate et cofondatrice de l'association Femmes Azidis, Chaparek Saleh. Bonjour.
Bonjour.
Voilà 27 jours que sévit la guerre au Moyen-Orient. Hier soir encore, de nombreuses déclarations ont fusé dans tous les sens. Donald Trump se dit prêt à déchaîner l'enfer si l'Iran faisait un mauvais calcul dans ce conflit. L'Iran, de son côté, n'a pas l'intention de négocier et a annoncé ouvrir un nouveau front dans le détroit de Bab el-Mandab, passage obligé vers le canal de Suez en mer Rouge. Le modèle de Gaza ne doit pas être reproduit au Liban. Ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'alarme d'une guerre hors de contrôle. Et Emmanuel Macron salue, lui, les mesures fortes et courageuses prises par le Liban. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Chaparek Saleh, je vous sais chaque jour plus furieuse contre le président français Emmanuel Macron. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Écoutez, je regrette simplement qu'il n'entende pas en fait la voix du peuple iranien, ou pire encore, peut-être qu'il l'entende et s'en désintéresse. Le peuple iranien a lancé un appel au secours, a demandé à être sauvé parce que seul il ne parvenait pas à se débarrasser de ses bourreaux. Et c'est à cet appel au secours qu'ont répondu Donald Trump et Benjamin Netanyahou en intervenant en Iran. Et tout ce que cherche à faire le président Macron depuis, c'est apaiser la situation. Mais ce n'est pas ce que souhaitent les Iraniens. Aucun apaisement n'est souhaitable du point de vue des Iraniens, parce qu'un apaisement, ça voudrait dire s'asseoir autour d'une table avec les tyrans du peuple iranien, ceux qui le tyrannisent depuis 47 ans, essayer de les faire durer encore plus dans la région et créer davantage d'instabilité, non seulement dans la région, mais dans le reste du monde. Et ce n'est pas ce que souhaitent les Iraniens. Donc, voilà, ma furie, elle a une, si on peut l'appeler comme ça, elle a une raison d'être qui est cette sensation de n'absolument pas être entendue, ou pire encore, d'avoir une parole aussi forte et vitale qui est reniée.
Oui, ce que vous nous dites en substance, c'est que vous reprochez à Emmanuel Macron de n'avoir jamais compris le peuple iranien, ses aspirations et ses douleurs.
Voilà, c'est ça, ou de ne pas vouloir le comprendre pour faire passer son idéologie ou son propre avis avant celui du peuple iranien. Alors évidemment, c'est le président des Français, je suis franco-iranienne, donc il est évidemment aussi important pour moi qu'en tant que président des Français, mon président me protège. Mais j'ai l'impression qu'en n'entendant pas la voix du peuple iranien, outre le fait qu'il ne fait pas preuve d'humanité vis-à-vis d'un peuple étranger, il ne se préoccupe pas non plus des intérêts des Français ici en France, puisque la protection des Français suppose non pas que ce régime soit maintenu, mais justement qu'il soit éradiqué une fois pour toutes.
J'ai entendu que vous affirmiez dans l'une de vos interventions à la télévision que, in fine, la situation de l'Iran aujourd'hui est la faute, entre autres, de la France. Que c'est en 79, Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi l'Américain Jimmy Carter, qui ont été à la manœuvre pour faire couler l'Iran. Pouvez-vous nous expliquer clairement votre point de vue ?
Bah écoutez, en 79, on avait évidemment des mouvements de révolte qui avaient lieu en Iran, mais à l'époque, ces mouvements étaient plutôt dominés par la gauche. Ils n'avaient rien de religieux. Il se trouve que ce que craignait à l'époque, ce qui était craint à l'époque par Carter et Valéry Giscard d'Estaing, c'était plus le bloc soviétique que le risque islamique. Et il se trouve qu'à cette même époque, en 1979, à Neufle-le-Château, Giscard d'Estaing avait donné asile à l'ayatollah Khomeini. Et à l'époque, la presse française et les intellectuels français, ainsi que les puissances américaines, ont commencé à voir en l'ayatollah Khomeini le visage d'un sauveur, un sauveur qui allait les débarrasser du monarque iranien qui commençait à devenir embêtant à gérer, mais surtout aussi du risque qu'à sa place se mette en place un régime proche des soviétiques. Et donc, encouragé par la presse, l'intelligentsia de gauche française, et aussi par le gouvernement français, l'ayatollah Ruhollah Khomeini a réussi à devenir extrêmement visible ici en France, d'ailleurs davantage qu'il ne l'était à l'époque en Iran, et a été, disons, porté aux vues de tous. Il a eu droit à une grande, grande médiatisation. Et puis, un jour, a été placé dans cet avion Air France qui l'a ramené sur les terres iraniennes. Et puis la suite, on la connaît, c'est 47 ans de barbarie depuis. Et donc la France, qui devrait être à nos côtés pour nous aider à nous libérer de cette tyrannie à laquelle elle a contribué, eh bien, continue de vouloir la maintenir en place.
Chaparak Saleh, quelle est la solution alors aujourd'hui pour que le peuple iranien s'en sorte ? Définitivement, ai-je envie d'ajouter.
Eh bien, la solution, elle commence par ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle. On le sait, eh bien, Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont intervenus en Iran. Je refuse de parler de guerre parce que quand cette intervention répond notamment à un appel au secours du peuple, on ne peut pas alors parler de guerre. Et donc, ça, c'est la première étape indispensable qui doit viser exclusivement l'affaiblissement du régime. Vous citiez tout à l'heure Donald Trump pendant la nuit. Si, quand il dit qu'il va faire de l'Iran un enfer, il parle d'autre chose que du régime, à ce moment-là, les Iraniens ne sont plus du tout d'accord. L'enjeu ici, c'est d'affaiblir le régime, de continuer les frappes ciblées qui portent atteinte au régime, mais qui ne portent pas atteinte à l'Iran, parce que l'Iran doit pouvoir ensuite se reconstruire. Et donc, il est très, très important que cette ligne ne soit pas franchie, et donc pour aussi garder le soutien des Iraniens, qui aujourd'hui demeurent extrêmement forts. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que tel est le cas, c'est que l'Internet en Iran demeure coupé. La raison pour laquelle il n'y a pas d'Internet, c'est que justement, le régime craint qu'on voit encore ces images où les Iraniens crient qu'ils souhaitent la chute du régime et remercient les Américains et les Israéliens pour l'aide qu'ils apportent. C'est pour ça que l'Internet reste coupé en Iran. Et donc, c'est ça qui se joue aujourd'hui, un affaiblissement profond du régime qui est un un élément indispensable pour qu'ensuite le peuple puisse se saisir de son destin. Et je crois que de ce point de vue-là, en tout cas dans la parole très claire de Benjamin Netanyahou et dans la parole parfois moins claire de Donald Trump, mais il a quand même eu l'occasion de le dire aussi, c'est ça l'un des objectifs qui est poursuivi. C'est de permettre ensuite au peuple iranien de se saisir de son avenir et de choisir ce qui est bon pour lui. Et là-dessus, on a Reza Pahlavi qui est la figure de l'opposition qui est aujourd'hui, dont le nom est scandé aujourd'hui en Iran, qui dit bien au peuple, attendez qu'on vous donne le signal. Si vous sortez aujourd'hui, vous allez vous faire massacrer. On voit d'ailleurs des images d'hier soir où on continue à voir les membres du régime tirer à la carabine sur des personnes qui scandent de simples slogans depuis leur balcon. Donc là, ce n'est pas le moment de sortir. Mais à l'instant T où le régime aura été suffisamment affaibli, alors il est sûr et certain que les Iraniens sortiront pour se saisir de leur destin.
On l'entend donc, vous êtes pour l'intervention, l'interventionnisme israélo-américain, mais que répondez-vous aux détracteurs qui vous opposent que ceux dont vous êtes très heureuse de voir la venue sont Donald Trump et Benjamin Netanyahou ?
Eh bien, je leur réponds que moi aussi, si j'avais pu choisir d'autres alliés, croyez-moi, je l'aurais fait. Si vous me demandiez le portrait idéal de mon allié idéal, il aurait plus pris la forme d'un Emmanuel Macron que d'un Benjamin Netanyahou ou d'un Donald Trump. Mais la réalité est ce qu'elle est. Et il faut aujourd'hui ouvrir les yeux sur ces 47 ans qui se sont écoulés sans que personne ne vienne au secours des Iraniens. Eh bien aujourd'hui, il y a deux mains qui sont tendues. On n'a pas le luxe de pouvoir dire qu'on aurait aimé d'autres mains. Les mains sont là, on les remercie. Et c'est tout. Et on avance.
On l'a appris hier soir, l'Iran n'a pas l'intention de négocier, je cite, mais de continuer à résister. J'insiste sur ce mot, résister. Comment sonne-t-il à vos oreilles l'usage de ce mot dans la bouche du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, résister ?
Vous savez, c'est le crabe qui se cramponne à son rocher. C'est ça, ce sentiment-là qu'ont les Iraniens. Hein. Tel un cancer, le régime islamiste s'est répandu en Iran. Aujourd'hui, on essaye de l'éradiquer. Le peuple n'en veut clairement plus. Et pourtant, il est là, il s'accroche et refuse de céder. Vous savez, souvent, on reproche, et on ne va pas refaire l'histoire, mais on reproche à l'ancien Shah d'Iran d'avoir été un tyran sanguinaire. Mais il aurait très bien pu aussi s'accrocher au pouvoir et ça aurait été un bain dans sang. Il aimait trop son peuple, il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on voit des gens qui n'en ont que faire de leur peuple puisqu'ils le massacrent, 40 000 morts en deux jours, et s'accrocher ainsi, quitte à conduire à la destruction totale de l'Iran. C'est pas ça le patriotisme, ça c'est une volonté de dominer par son idéologie mortifère.
Pour finir, j'aimerais, si vous me le permettez, Chaparak Saleh, vous poser une question plus intime. Comment vivez-vous, par les temps qui courent, votre binationalité ? Cette tension permanente entre être française et en même temps être iranienne ?
Écoutez, moi je suis très en paix avec ça, je me sens très française, j'ai acquis la nationalité en 1987 et je suis très reconnaissante à l'État français pour tout ce qu'il a fait pour ma famille et pour moi et pour l'accueil qu'il nous a donné, pour l'intégration qui a été possible et pour la vie que j'ai pu y construire grâce à mes efforts. Je n'oublierai jamais ce que la France a été pour nous, une terre d'accueil. Mais je regrette aussi, comme j'ai pu vous le dire avant, l'absence de prise de position ferme de notre gouvernement actuel. Mais je n'accuse pas la France parce que je sais et je reçois tant de messages des Français qui nous disent « ce n'est pas représentatif de ce que nous, Français, pensons ». Donc moi, je reste profondément française, profondément iranienne. J'aime mes deux pays. Et j'espère juste que voilà que qu'ils puissent avoir dans l'un comme dans l'autre des dirigeants à la hauteur de leur grandeur.
Merci beaucoup, Chaparak Saleh, d'avoir accepté l'invitation de RCJ. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre correspondante en Israël, Emmanuel Ada. Restez là. RCJ.
Israël est sous le feu des missiles. À chaque alerte, une vie peut basculer. Jour et nuit, les équipes du Magen David Adom interviennent sans relâche. Ambulances, secouristes, banques du sang. Sous les sirènes, ils sauvent des vies. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Votre don permet d'équiper, d'intervenir, de protéger. Face aux missiles, chaque seconde compte. Face à l'urgence, chaque don sauve. Faites un geste maintenant sur mda-france.org. MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Médecin francophone, vous pensez exercer en Israël? Ne manquez pas le MEDEX France le 3 mai 2026 à Paris. Au programme, dépôt de dossier pour la licence médicale israélienne, notaire israélien et rencontre avec des médecins déjà installés. Même si votre alia n'est pas pour tout de suite, venez vous informer. Inscription obligatoire, imap.org.il. MEDEX France, le 3 mai à Paris.
Au Fonds social juif unifié, notre solidarité traverse toutes les mers. Pour les fêtes de Pessah, comme tous les ans, le FSJU se mobilise pour soutenir les plus fragiles. En France, pour que des familles puissent passer les fêtes dans la dignité. En Israël, pour aider ceux qui se reconstruisent et se confronter en ce moment même à des situations d'urgence. Parce que notre solidarité ne connaît pas de frontières. Chaque don compte. Faites un don dès maintenant sur pessah.fsju.org. pessah.fsju.org. FSJU, votre générosité est notre force.
Vous écoutez RCJ, il est 8h21. Nous sommes maintenant avec Emmanuel Ada. Bonjour.
Bonjour Didier, excusez-nous pour ce petit contretemps dû au missile iranien. Nous avons eu en effet deux alertes l'une après l'autre ce matin.
Effectivement. Avant toute chose, allez-vous bien Emmanuel?
Tout va bien, merci.
Parlons tout de suite donc de ces vidéos diffusées par les gardiens de la révolution islamique sur leur arsenal dans une base souterraine. La question que j'ai envie de vous poser est la suivante, est-ce un hasard de calendrier ou une manœuvre psychologique ?
C'est une très bonne question Didier. Alors les tunnels du Hamas à Gaza, tout le monde les connaît. Les tunnels du Hezbollah au sud Liban qui vont jusqu'à l'intérieur du territoire israélien aussi, ils ont également été dévoilés par Tzahal. Cette fois il s'agit de souterrains en Iran. Une cité de missiles souterraines dévoilée avec fierté dans une vidéo par le corps des gardiens de la révolution islamique iranien. Sur ces images, on peut voir des rangées de missiles défensifs et d'équipements militaires à l'intérieur d'une vaste base souterraine. Le corps des gardiens de la révolution y indique que l'installation abrite notamment le missile Sayad 3 et le système de défense aérien, le D9. Alors malgré des frappes incessantes américano-israéliennes depuis plusieurs semaines, le rythme des lancements de missiles iraniens reste élevé, on l'a bien vu encore ce matin, et l'explication se trouve sous terre. L'Iran disposerait donc de 27 villes de missiles enfouies si profondément que les bombes conventionnelles peinent à les atteindre. Les forces israéliennes et américaines concentrent donc leurs efforts sur les entrées de ces tunnels, qui sont les seuls points vulnérables accessibles depuis le ciel. Pourtant, la bataille est loin d'être gagnée. Des images satellites montrent une réactivité impressionnante grâce à des unités de génie civil iranien. Les points d'accès qui sont bombardés par Israël sont souvent déblayés et réouverts en seulement quelques heures. Et la diffusion de ces images de ces bases souterraines iraniennes n'est certainement pas un hasard de calendrier en ce mois de mars 2026, après 4 semaines de conflit. Alors au-delà de l'aspect spectaculaire de ces cités de missiles, il faut y voir une manœuvre stratégique précise. Il s'agit d'une guerre des nerfs. Cette communication intervient alors que les tensions régionales atteignent des sommets et montrer ces stocks impressionnants d'armement est une tentative claire de dissuasion. Il s'agit d'un passage d'une stratégie de frappe massive à une logique d'usure. Multiplier les sites de lancement protégés permet de maintenir une menace constante sur la durée. Mais la question que tout le monde se pose est, s'agit-il d'une réelle démonstration de force ou d'une mise en scène pour masquer au contraire une faiblesse, une vulnérabilité face aux nouvelles technologies israéliennes de pénétration de bunkers? Alors on ne peut pas juger la force de l'armée iranienne à la quantité de missiles envoyés par jour. Il faut voir les choses dans la durée. En utilisant leur tunnel sous la montagne, ils cherchent à installer dans le temps une atmosphère de guerre, le temps oriental. Les guerres éclairs, ce n'est pas leur truc. S'ils tirent au compte-gouttes un peu chaque jour, c'est une stratégie délibérée. Le but n'est pas la destruction massive immédiate, mais l'épuisement de la vigilance et la création d'un climat psychologique d'insécurité permanent pour le peuple israélien, qui est fatigué, certes, mais qui est plus résistant que jamais. Ils cherchent l'effondrement du moral national par la répétition, avec l'idée d'une guerre d'usure, tout simplement. Mais qui perd le plus à faire durer cette guerre? Restons optimistes et on se permet de penser en Israël que les Iraniens ont plus à perdre à faire durer la guerre, même s'ils sont plus de 92 millions d'habitants et que les mollards n'ont aucun scrupule à sacrifier totalement leur peuple. Mais nous savons qu'ils n'ont pas notre capacité de résistance psychologique ni notre stratégie militaire impressionnante. En 48 heures, plus de 600 missions d'attaque ont été menées par Israël avec une précision chirurgicale. L'armée de l'air traque et détruit les lanceurs de missiles en temps réel, même lorsqu'ils sont chargés et prêts à faire feu. Au-delà des lanceurs, ce sont les sites de production et les activistes clés qui sont neutralisés pour affaiblir la structure. Selon le renseignement militaire israélien, les frappes constantes de Tsahal provoquent une onde de choc au sein des unités des gardiens de la Révolution. On observe désormais une baisse de leur morale, une hausse de l'absentéisme et une peur grandissante parmi les opérateurs qui refusent de rejoindre les zones de lancement. Les prochains jours, Didier, vont être décisifs.
Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. Il est 8h26, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve à 11h pour votre rendez-vous du jeudi, Controverse, une émission présentée par Alain Bentolila qui reçoit aujourd'hui Pascal Raphaël Ambrogi, haut fonctionnaire et écrivain. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à midi aujourd'hui pour RCJ Midi. Merci de votre fidélité, merci d'avoir choisi RCJ et à tout à l'heure.